Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 11 décembre. Aujourd'hui, on va parler du procès que Guillaume Meurice intente à son ancienne direction de France Inter devant les prud'hommes, enfin Radio France plus exactement. On va parler du dossier de l'A69 avec une audience qui devrait faire date, qui s'est ouverte aujourd'hui, et pas mal de petites histoires et de dossiers justement pour alimenter encore le feuilleton de l'A69. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre ? Eh bien, du nouveau aussi dans l'affaire de peut-être l'implication de la France sur le génocide au Rwanda contre les Tutsis, puisque la Banque de France vient d'être visée par une plainte pour des transferts jugés suspects. Puis voilà en gros les gros titres de cette édition.
Ce sera tout à fait comme à la radio.
Comme à la radio, comme à Radio France, hein, Guillaume Meurice est donc aujourd'hui devant les prud'hommes pour contester son licenciement de Radio France. Liberté d'expression ou devoir de fidélité à l'employeur, c'est un peu ce dont on a discuté pendant ces plus de 2 heures, hein, de débat assez vif devant le Conseil des prud'hommes. C'était donc hier, mercredi 10 décembre à Paris. Guillaume Meurice, vous le savez sûrement, humoriste licencié par Radio France en juin 2024 pour faute grave, a, par la voix de son avocat, demandé l'annulation de sa rupture de contrat anticipé et donc près de 400 000 euros de dédommagement à son ancien employeur. Tout était parti d'une blague de cet humoriste, c'était le 29 octobre 2023, au cours d'un sketch portant sur des déguisements qui feraient peur pour Halloween. L'humoriste avait proposé le déguisement du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qu'il avait alors qualifié de « sorte de nazi, mais sans prépuce ». Ces propos étaient tenus quelques semaines après l'attaque du Hamas du 7 octobre et le début des bombardements à Gaza. Lui avait valu donc des accusations d'antisémitisme et conduit l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, à adresser une mise en garde à Radio France. Mi-juin, la direction de Radio France l'avait donc finalement limogé pour faute grave, et ce malgré l'opposition des syndicats de Radio France et de toute la rédaction de France Inter, qui disaient redouter un précédent grave pour la liberté d'expression. Cette décision, expliquait alors la présidente de Radio France, Sybille Veil, je l'ai prise pour déloyauté répétée à l'égard de l'entreprise. C'est un mail qu'elle avait envoyé au personnel. Elle expliquait qu'en réitérant finalement ses propos à l'antenne au mois d'avril, suite justement à la décision de la justice, Guillaume Meurice avait ignoré l'avertissement qu'il avait reçu et la mise en garde de l'ARCOM. Puisqu'en effet, cette blague avait été jugée devant la justice comme étant complètement valide et dans le cadre de la liberté d'expression. L'humoriste de 44 ans avait donc estimé que son licenciement scellait une victoire idéologique de l'extrême droite et raillait la soif d'obéir des dirigeants de la radio publique. On en rirait volontiers si l'histoire s'arrêtait à mon cas personnel, disait-il à l'époque sur X, mais le projet est global. Plusieurs chroniqueurs de France Inter dans la suite avaient quitté la station en solidarité avec Meurice et l'avaient rejoint sur Radio Nova, où il présente désormais chaque dimanche l'émission La Dernière, hein, depuis septembre 2024. L'émission de Charline Van Honecker, elle, a été supprimée de l'antenne d'Inter. Et après des années de succès, la station traverse aujourd'hui, ces derniers mois, une période compliquée, avec la perte de presque 500 000 auditeurs en un an, des figures internes qui regrettent justement le choix de la station d'embaucher des humoristes aujourd'hui qualifiés de ni corrosifs, ni impertinents, ni drôles. Dans un entretien qui est paru ce lundi dans l'Humanité, Guillaume Meurice détaillait l'enjeu du procès selon lui, qui serait décisif. Le tribunal, en s'appuyant sur le droit du travail, doit se positionner sur une question. Est-il normal de virer un humoriste pour une blague que même la justice, dans le même état de droit, a déclarée valide ? Est-ce que l'état de droit est donc cohérent ? C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui, c'est ce qu'il disait hier donc à son arrivée au Conseil des prud'hommes. Le droit du travail sera au cœur aussi de cette question, puisqu'à France Inter, Déjà, il y a des situations un petit peu particulières. L'avocat de Guillaume Meurice conteste toute faute et assure que le licenciement de celui-ci constituait une atteinte à la liberté d'expression devait être annulé. Le conseil chiffrait les demandes d'indemnisation à plusieurs dizaines de milliers d'euros, réclame aussi la requalification justement en CDI du lien contractuel qui unissait Guillaume Meurice et Radio France depuis ses débuts sur Inter en août 2022. C'est un peu comme ça que ça se passe, tous les ans la grille est renouvelée, on fait des CDD. Donc par exemple, Guillaume Meurice avait au total signé avec la radio publique 250 contrats à durée déterminée d'usage, ça s'appelle des CDDU, ce qui est une pratique courante à Radio France qui, d'après l'avocat justement, semblerait contraire à la loi.
À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là.
Dossier de la 69 maintenant. Hier, mercredi 10 décembre, des militants écologistes opposés donc à ce chantier de l'autoroute Toulouse-Castres se sont installés dans des arbres devant la cour administrative d'appel de Toulouse, pour la Haute-Garonne donc. La présence de ces militants intervient alors que la justice commençait à se pencher aujourd'hui sur la poursuite des travaux de l'autoroute qui doit donc supposément relier Toulouse à Castres dans le Tarn. Cette audience est très attendue alors que le rapporteur public a livré mardi ses conclusions. Le tribunal s'est positionné en faveur d'une annulation des jugements du tribunal administratif du 27 février. Cette annulation avait en effet rendu caduques les autorisations environnementales de l'A69 pour arrêter les travaux dans la foulée. Cette décision historique a poussé l'État et Atosca, gestionnaire de l'autoroute, à faire appel du jugement. C'est donc ça dont on va discuter. L'avis du rapporteur public ne signifie pas d'ailleurs que la décision de la Cour administrative de Toulouse sera la même, mais cet avis sera majoritairement suivi par les magistrats des juridictions administratives suivantes. En tout cas, quelle que soit la décision, le bras de fer judiciaire entre les pour et les anti est loin d'être terminé. Ce mardi, des opposants ont déposé plainte contre des dépassements d'emprise de la surface des travaux sur plus de 40 hectares auprès du parquet régional environnemental de Toulouse. Le chantier a donc débordé de ce qu'il était normalement censé couvrir. Cette plainte est assortie d'un référé pénal demandant la suspension des travaux le temps d'un audit complet sur les pratiques du concessionnaire depuis mars 2023, explique le collectif d'opposants La Voix est libre dans son communiqué. Atosca avait jusqu'à ce 8 décembre, à ce lundi, pour expliquer justement et justifier ces dépassements d'emprise. Un des autres dossiers à étudier, qui arrive aussi dans la foulée, lui remonte à l'été 2024. À l'époque, 8 organisations opposées à l'autoroute ont déposé 3 plaintes au pénal contre X auprès du tribunal judiciaire de Toulouse. Donc il y a le tracé dont je vous parlais, le tracé hautement controversé de cette autoroute. Lui, c'est une plainte pour faux et usage de faux, trafic d'influence et prise illégale d'intérêt par plusieurs associations. Par exemple, le député macroniste Jean Terlier est ciblé dans ses plaintes. La première plainte a été déposée pour faux usage de faux, trafic d'influence et prise illégale d'intérêt. Ces délits auraient provoqué des atteintes graves au patrimoine culturel et naturel, explique la plainte. Et donc, cette petite affaire dans l'affaire concerne le maire de la commune de Morin-Scopon, dans le Tarn, qui aurait usé de son influence pour faire modifier le tracé de l'autoroute, accompagné d'ailleurs dans cette manœuvre par le cabinet d'avocats du député Renaissance Jean Terlier, donc un ardent défenseur de l'A69. À l'époque, le tracé aurait été ainsi rapproché du château de Scopon, qui est donc un bâtiment patrimonial, et ce, s'affranchissant des règles de protection qui sont observées normalement par les monuments historiques. Et pourquoi ça? Eh bien, le tout visiblement pour s'éloigner des parcelles du maire.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Et alors donc, une audience capitale se tient aujourd'hui pour sceller ou pas le sort de l'A69. Reporter, le journal Reporter Écolo, a donc voulu vérifier un des arguments du concessionnaire Atosca, à savoir que le chantier serait maintenant trop avancé pour l'annuler. Sur place, visiblement, les retards et nombreuses irrégularités démontrent le contraire. Des terres utilisées illégalement, ça je vous en ai parlé, selon les opposants, sans fouille archéologique préalable avant de creuser le bassin et sans état des lieux environnemental. C'est un exemple de ce qu'on peut constater sur des endroits du chantier. Et ce n'est pas la seule ombre au tableau. Le chantier est en effet particulièrement en retard, malgré le fait qu'ils aient travaillé des fois contre des décisions de justice, qui normalement les sommet d'arrêter les travaux, et ce alors que justement le concessionnaire lui assure le contraire dans toute sa communication. D'ici l'année, la fin de l'année, l'ensemble des ouvrages, comme l'essentiel des terrassements, seront terminés, affirmait ainsi Martial Gerlinger, je ne sais pas, le directeur d'Atosca, le 10 novembre. C'était dans le média spécialisé Le Moniteur. Alors pourquoi une telle différence entre la communication d'Atosca et justement ce qu'on peut observer sur le terrain? Eh bien c'est que cette avancée des travaux est un argument particulièrement sensible. en ce moment, spécialement alors que la cour administrative d'appel se penche sur la légalité ou l'illégalité de l'autoroute. Le concessionnaire a en effet pris l'habitude, lors de chaque audience dans les tribunaux administratifs, de dire que les travaux étaient trop avancés et trop d'investissements avaient été faits sur le projet, ce qui pourrait justifier selon lui l'impossibilité de faire machine arrière. C'est ce qu'on appelle la politique du fait accompli. Cet argument n'est pourtant pas recevable en droit, et il avait d'ailleurs été balayé le 27 février par cette fameuse décision du tribunal administratif de Toulouse, une décision historique qui avait annulé l'autorisation environnementale de l'autoroute, mais qui malheureusement ne s'était pas soldée par un arrêt du chantier au grand dam justement des opposants. Tous ces manquements à la réglementation, visiblement en plus, ne sont pas très surveillés par les autorités, hein. C'est Blandine, par exemple, qui fait partie du collectif La Voie est libre, qui a fait des premiers signalements en juillet 2023. Elle explique « C'est nous, les riverains, le long du chantier, qui faisons la plupart des signalements à l'Office français de la biodiversité et à la direction départementale des territoires du Tarn. On est à plus de 150 signalements. Parfois, des agents sont envoyés sur place pour constater ces irrégularités, ce qui pousse alors la préfecture à adresser des mises en demeure aux concessionnaires. Mais vous le voyez que c'est la mobilisation citoyenne qui fait tout le boulot. Elle ajoute « On se rend compte que depuis le début, cela n'inquiète pas le gestionnaire Atosca. Ce concessionnaire prend de petites mesures pour faire semblant de faire quelque chose. Heureusement qu'il y a de la vigilance citoyenne pour dénoncer cette catastrophe écologique. » De quoi mettre à mal donc tous les arguments d'Atosca devant le juge aujourd'hui, on verra. Le délibéré devrait être connu sous une quinzaine de jours et pourrait sceller définitivement le sort de ce projet autoroutier.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
Et on termine ce dossier à 69 avec une histoire qui prête un petit peu à sourire. Un autre reportage dans les colonnes de reporters. Donc vous pouvez suivre le récit d'une nuit d'expédition qui a été menée. C'était dans la nuit du 24 au 25 juin 2025. Une expédition nocturne menée ciblant des maisons d'opposants et des soutiens donc à l'anti-A69. Ces maisons ont été peinturlurées par un commando de bras cassés visiblement et aussi beaucoup de panneaux installés sur les bords des routes pour justement cibler ces soutiens. Conséquence de cette virée nocturne, 5 chefs d'entreprise, dont 2 sont des élus, par exemple un sous-traitant du concessionnaire et un de leurs camarades de rugby, donc tous pro A69, eh bien ils se retrouvent tous convoqués. Ça sera devant le tribunal correctionnel de Castres le 7 avril 2026 pour des faits donc, de dégradation en réunion, ça c'est pour l'État que j'imagine, divulgation d'informations personnelles et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit. 2 d'entre eux sont également poursuivis pour circulation avec une fausse inscription apposée sur un véhicule. Ils avaient scotché leur plaque d'immatriculation. Ça a commencé dans un groupe WhatsApp, cette histoire, qui s'appelle Via Action. C'est Guy Bousquet, en début juin 2025, un message qui sera retrouvé sur son téléphone par un officier de la police judiciaire de Castres. « Je pense, dit-il, qu'il faut viser tous ceux qui accueillent les voyous, tous ceux qui soutiennent les voyous. Il n'y a aucune raison qu'ils dorment tranquillement. Il faut informer tout le monde des risques qu'ils prennent. Affichage, tag, tract. » Ce Guy Bousquet est un personnage bien connu dans la région. C'est le patron de la jardinerie Tarnaise, un gros magasin de matériaux et produits de jardin. Il est également le président de l'association Via 81, une asso qui milite depuis de longues années pour la construction de l'A69. Et c'est donc lui le fondateur de ce canal WhatsApp qui regroupe une quinzaine des plus fervents défenseurs de l'autoroute A69. Et leurs profils ne sont pas ceux des zadistes, plutôt des gens en place sur le territoire. Au cours de cette réunion préparatoire, tout ça est documenté par la police maintenant, donc un soir se retrouvent des chefs d'entreprise, des élus du territoire et d'autres notables castrés, tous favorables au projet d'autoroute. Par exemple, Benoît Puech ou Mathurin Castan. Lui, c'est un des dirigeants du groupe Castan et qui intervient directement sur le chantier de la 69 puisqu'il s'occupe du transport des matériaux. Tout ce petit comité donc, ne tarde pas à entrer dans le vif du sujet. Ils veulent organiser une action dans la nuit donc du 24 au 25 juin pour faire changer la peur de Caen. Ça, ce sont les mots que Benoît Puech donnera une fois mis en garde à vue. Leur idée est simple, accrocher plusieurs panneaux sur la voie publique au bord des routes pour révéler l'identité des opposants locaux à la 69 et les dissuader de poursuivre la lutte. Ces opposants peuvent par exemple laisser des terres pour que les opposants à l'autoroute organisent des rassemblements, mettent des tentes, etc. Au total, donc 26 panneaux sont imprimés et ils seront posés de nuit autour de Castres cette nuit-là. Ça, c'est pour l'équipe panneau. Et une troisième équipe, elle aurait agi et est plutôt responsable, a priori, des jets de peinture et des inscriptions à la bombe, des grosses inscriptions en rouge sur les portails et les façades de ces maisons. Les enquêteurs castrés constatent un lien indéniable entre les panneaux et les dégradations. Et là, je vous donne le petit détail. Donc ils les attribuent au même groupuscule, notamment à cause du X qui a été mis au mot voyou. Donc une faute d'orthographe repérée sur toute cette communication, et puis aussi sur les victimes qui ont été ciblées. D'ailleurs, les personnes qui se sont fait pincer ont assumé leur action. Certains même étaient dans les locaux de radio locale pour s'en vanter le lendemain avec la voix trafiquée. Si le Guy Bousquet, lui, est resté en retrait de l'action, c'est ce qu'expliquera Puech aux enquêteurs, c'est parce que c'est l'officiel, le président de l'association, et qu'il a des contacts avec le préfet et tout ça. Il ne faut pas qu'il soit éclaboussé. Bon, visiblement, c'est raté. En attendant le procès de cette bande de pieds nickelés, Benoît Puech continue, à travers son rôle d'élu à Mazamet et à la communauté d'agglomération, de soutenir activement la 69. Dernier exemple, le 29 septembre, il a voté pour une nouvelle subvention de 2,75 millions d'euros pour l'autoroute.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Allez, on reste dans le sud-ouest et sa campagne avec une grosse mobilisation qui est en train de se passer en Ariège autour du premier cas de dermatose nodulaire. Vous savez, cette maladie qui touche les bovins. Plus de 200 vaches doivent être abattues dans une ferme et les éleveurs sont donc mobilisés pour bloquer l'accès à la ferme ce matin. Ça remonte à un communiqué de presse de la préfecture qui indiquait avoir pris un arrêté de déclaration d'infection, ce qui permet de prendre des mesures pour contenir et limiter la propagation de la maladie. Cet arrêté prévoit le dépeuplement de l'unité de bovins. Alors dépeuplement, vous l'aurez compris, c'est le mot administratif utilisé par la préfecture pour abattre un troupeau. Le cheptel de 206 vaches, je crois, devait donc dès ce 10 décembre être abattu. Dans le monde agricole, c'est donc la consternation et la colère qui prévalent face à ces mesures d'abattage, comme ça s'est produit récemment, je vous en parlais, dans le département du Doubs. Contacté par la chaîne France 3 à Foix, le président de la coordination rurale d'Ariège, Sébastien Durand, réagit donc à cette décision de la préfecture. C'est une honte, on ne laissera pas faire ça. Cet élevage, en plus, n'est pas dans la zone réglementée qui a été mise en place le 16 octobre dernier, une zone de 50 km, autour des derniers foyers déclarés dans les Pyrénées-Orientales. Donc ils sont hors de ce cadre-là, donc ils ne comprennent pas pourquoi cette mesure d'abattage est annoncée. Une nouvelle zone réglementée vient en effet d'être mise en place, cette fois-ci dans un rayon de 50 km autour de la commune où se trouve cet élevage, à Bordes-sur-Arize, du côté du Mas d'Asile. Tout cela implique le renforcement de la surveillance vétérinaire, la restriction des déplacements des bovins et leur vaccination obligatoire dans la zone réglementée. Ce matin, donc, l'exploitation agricole touchée par un cas de dermatose nodulaire est désormais en véritable état de siège à l'aube. Les agriculteurs ont barré toutes les routes avec des tracteurs, déployé donc ces tracteurs en travers des chemins et même abattu des arbres pour empêcher l'arrivée des gendarmes et des CRS qui sont aussi prévus en nombre. Je vous rappelle qu'il y en avait au moins 200 la semaine dernière dans le Doubs. Donc l'accès à la ferme est pour le moment totalement bloqué, la tension reste maximale sur place. Et hier soir, la même coordination rurale de l'Aveyron avait mobilisé plus d'une centaine d'éleveurs. C'était devant la préfecture de Rodez, en déversant du fumier dans la cour avec un message clair. Stop à l'abattage total.
Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
De l'eau, y en aura-t-il encore? Et sera-t-elle surtout potable? L'eau potable, qui est contaminée par les PFAS, les polluants éternels, augmente probablement le risque de mortalité infantile et d'autres complications chez les nouveau-nés. C'est ce que révèle une étude menée par l'Université de l'Arizona et qui vient d'être publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences. C'était ce lundi 8 décembre 2025. En analysant donc dans cette étude 11 000 naissances dans le New Hampshire, les chercheurs ont constaté que les habitants qui utilisaient des puits situés en aval de sites contaminés présente une hausse de 191% de la mortalité infantile, donc deux fois par rapport aux normes. Il y a 20% de naissances prématurées et 43% de naissances de faible poids. Les naissances extrêmement prématurées et de très faible poids, donc là on est vraiment sur des cas très graves, elles ont augmenté de respectivement 168% et 180%, donc un peu moins d'un facteur de 2 par rapport à la norme. Je ne sais pas si nous nous attendions à trouver des effets aussi importants et aussi détectables, d'autant plus que la mortalité infantile n'est pas très élevée et qu'il n'y a pas beaucoup de naissances de très faible poids ou prématurées normalement. Ce sont les mots de Derek Lemoine, co-auteur de l'étude et de l'étude des professeurs d'économie à l'Université d'Arizona. Il est justement spécialisé dans l'élaboration des politiques environnementales et la tarification des risques climatiques. Mais, dit-il, c'est malheureusement ce que montrent ces données. Les auteurs de l'étude ont ainsi estimé que les coûts économiques annuels causés par par cette pollution, uniquement pour ce qui est des soins de santé ou de la perte de productivité. Tout cela pour atteindre près de 8 milliards de dollars, contre environ 3,8 milliards s'il fallait se conformer aux réglementations de traitement de l'eau. Voilà le genre de calcul qui permet peut-être de faire changer les politiques locales. Tout cela souligne que les PFAS ne sont pas une plaisanterie et qu'ils sont toxiques à des concentrations très faibles, déclarait Sidney Evans, un analyste scientifique senior de l'ONG Environmental Working Group. Surnommés les polluants éternels, ces PFAS s'accumulent en effet dans l'environnement. Ils sont associés à des cancers, des maladies rénales, des troubles du foie, des déficits immunitaires et des malformations congénitales qui, vous l'avez compris, donc, sont transmissibles notamment aux bébés en gestation.
Allez, remballe tout ça, Rémi, c'est écœurant à la fin.
Dernier dossier de ces nouvelles du monde, une nouvelle plainte est déposée, cette fois-ci contre la Banque de France par rapport au génocide des Tutsis au Rwanda. Cette Banque de France aurait fait des transferts de fonds jugés suspects en validant en 1994 donc plusieurs virements qui auraient facilité l'armement des forces génocidaires. Une plainte donc pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité a été déposée, c'était ce 4 décembre. C'est ce que viennent de révéler la cellule d'investigation de Radio France ainsi que Libération. Petit cours d'histoire d'abord, un rappel. Le 6 avril 1994, un avion qui transporte le président du Rwanda et le président du Burundi est abattu à Kigali. Un gouvernement intérimaire dominé par des Hutus extrémistes se met alors en place et commence une campagne d'extermination dirigée contre les Tutsis et toute personne suspectée d'opposition au régime. En quelques semaines, ce génocide des Tutsis et des Hutus modérés fait donc près d'un million de morts. La Banque de France aura-t-elle permis aux forces armées rwandaises de se procurer des armes en plein génocide? C'est donc la question qui va être étudiée par le tribunal. Selon cette cellule d'investigation de Radio France et de Libération, le collectif des partis civils pour le Rwanda, avec ses cofondateurs, donc Daphrosé Mukarumongi et son époux Alain Gauthier, ont saisi la justice d'une plainte avec constitution de parti civil, donc pour complicité de génocide et crime contre l'humanité, et ils visent la Banque de France. La plainte a été adressée par deux avocats, c'était ce jeudi 4 décembre, au doyen des juges d'instruction du pôle Crimes contre l'humanité au tribunal judiciaire de Paris. Ça fait 30 ans que ce couple, le couple Gauthier, avec donc son épouse Daphrosé Mukarumongi, consacre sa vie à faire la lumière sur les responsabilités, notamment institutionnelles, dans le génocide des Tutsis, puisque Madame Mukarumongi a elle-même perdu de nombreux membres de sa famille. Avec leur collectif, ils reprochent donc maintenant à la Banque de France d'avoir exécuté 7 transferts de fonds depuis les comptes de la Banque nationale du Rwanda. 6 de ces transferts ont eu lieu entre le 5 mai et le 7 juillet 1994, en plein cœur de la période du génocide, et le 7e, lui, le 1er août 1994. Le montant total de ces virements est de, c'était à l'époque en francs, donc 3 172 000 francs, ce qui fait environ 500 000 euros. À l'appui de cette saisine, c'est un tableau qui a été établi en 1996 par deux experts du programme des Nations Unies pour le développement, parmi eux l'ancien sénateur belge Pierre Galland, qui a beaucoup recensé et documenté tous ces virements de fonds, les montants, la date exacte à laquelle ils ont été effectués. Parmi les destinataires des virements, on peut citer la société française Alcatel, qui aujourd'hui fournit des technologies avancées de communication comme solution de défense. Le 5 mai 1994, elle recevait ainsi 435 000 francs depuis le compte de la Banque nationale rwandaise. Pour Alain Gauthier, il ne fait aucun doute que ce virement avait pour objet le financement de téléphones satellites à destination des plus hautes autorités rwandaises. Téléphones utiles pour se coordonner pendant la période du génocide. Pour les plaignants, d'autres de ces transferts documentés par les experts auraient pu contribuer directement à l'achat d'armes. 3 de ces virements sont destinés à des représentations diplomatiques en Éthiopie, en Afrique du Sud et au Caire, en Égypte. Selon Cathy Lynn Austin, justement, les ambassades étrangères sont généralement utilisées pour faciliter des transactions et des achats d'armes à l'étranger. Voilà. Si vous ne le saviez pas, apparemment, les spécialistes des ambassades et des guerres, eux, le savent que les ambassades servent pas mal aussi à faire des petits trafics comme ça. Parmi les nombreux pouvoirs dont disposera la justice et qui font défaut aux parties civiles, justement, figurera l'accès aux documents bancaires de l'époque et les archives de la Banque de France. En effet, les documents originaux qui avaient permis d'établir ce tableau des transferts par les experts du PNUD ont disparu. Pierre Galland se souvient, nous avions mis tous ces documents en sécurité dans un coffre-fort à la Banque nationale du Rwanda, Mais un jour, lorsque nous sommes venus les récupérer, le coffre avait été forcé et tous les documents avaient disparu. Négligence coupable, estiment en tout cas les auteurs de la plainte, pour qui la Banque de France ne pouvait pas ignorer ce qui était en train de se passer au moment où elle a autorisé ses virements. L'ONU venait en effet, le 17 mai 1994, d'instaurer un embargo sur les ventes d'armes au Rwanda. Pour Alain Gauthier, les partisans du parti Hutu Power menaient une extermination systématique des Tutsis partout où ils le pouvaient, jusque dans les églises et dans les écoles. Le monde entier savait comment la Banque de France et les autorités françaises auraient-elles pu l'ignorer. Il faut savoir qu'en 2017 déjà, ce même collectif des partis civils pour le Rwanda avait déposé une plainte contre une banque française, c'était la BNP, accusée d'avoir procédé elle aussi à des transferts ayant permis l'achat d'armes. L'instruction, elle, est toujours en cours 8 ans après.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Voilà les amis, c'est sur ces informations que l'on se quitte. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.